VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 13 juillet 2016. En direct de Washington, Idriss Assédoulia et Arnold Bolson. Tout d'abord les titres.
Roch Marc Christian Caboret va effectuer sa première visite en Côte d'Ivoire, où vit le président déchu du Burkina Faso, Blaise Compaoré.
Au Mali, le gouvernement déplore la mort de 3 personnes dans une marche de protestation des jeunes hier à Gao.
Au Soudan du Sud, le cessez-le-feu a été respecté hier à Djouba, la capitale.
Amnesty International dénonce une multiplication des disparitions forcées sans précédent en Égypte et le recours à la torture pour éliminer la contestation pacifique.
À Dallas, hommage ému hier de Barack Obama aux 5 policiers tués par un tireur embusqué. Le président américain a de nouveau appelé à la réconciliation.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le président burkinabé, Roch Marc Christian Caboret, effectuera une première visite chez son voisin ivoirien. L'ancien président Blaise Compaoré y a obtenu l'asile, alors que Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a été cité dans une tentative de putsch à Ouagadougou. Idriss Fall.
Les relations sont excellentes. Les gouvernements des deux pays vont se retrouver à la fin du mois au grand complet à Yamoussoukro, a affirmé Alpha Barry, chef de la diplomatie burkinabé, qui effectue une visite de 3 jours en Côte d'Ivoire. La rencontre des chefs d'État se tiendra du 27 au 29 juillet. Plusieurs dossiers ont empoisonné les relations entre ces deux pays depuis la chute de Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir en 2014. Depuis, M. Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire et a obtenu la nationalité ivoirienne. La justice burkinabé a lancé un mandat d'arrêt contre lui pour l'entendre sur la mort de Thomas Sankara. Elle avait aussi ouvert une enquête sur une conversation téléphonique supposée entre Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères du Burkina, et Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion et actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Malgré tout, Alpha Barry a souligné qu'il n'y avait aucun nuage, mais plutôt une union sacrée contre le terrorisme après les attaques à Ouagadougou et à Grand Bassam.
Au Mali, le gouvernement a présenté ses condoléances et déploré la situation à Gao, où une marche de protestation hier contre les autorités intérimaires a dégénéré et fait 3 morts et des blessés, tant du côté des manifestants que des forces de l'ordre. Le gouvernement a exhorté les populations de Gao au calme et rappelé que le dialogue et la concertation doivent guider toutes les parties. Une mission de haut niveau se rendra sans délai à Gao, annonce par ailleurs le gouvernement malien. Revenons sur les événements de Gao avec notre correspondant sur place, Boubacar Touré.
Ils étaient une dizaine de jeunes dans la rue pour manifester contre le DDR et contre les autorités intérimaires. La marche qui a pris départ devant le tombeau des Askia au quartier Gadey était pacifique jusqu'à la place des Martyrs au 3e quartier où les forces de l'ordre sont venues s'interposer contre l'avancée des jeunes vers le gouvernorat. Les manifestants, se sentant offensés par l'utilisation des gaz lacrymogènes, ont foncé droit sur les policiers qui ont battu retraite. Quelques instants après, le bilan provisoire fait état de 3 morts et une trentaine de blessés, dont des cas graves. Un jeune manifestant nous dit pourquoi ils sont dans la rue.
Tout le monde connaît l'histoire des sédentaires. Nous, on n'a pas d'armes, mais on veut être des militaires. On veut intégrer dans l'armée pour prendre la défense de nos villes. Parce que chacun de nous est informé aujourd'hui de ce qui se passe.
La maison du deuxième adjoint au maire de la commune urbaine de Gao a été pillée par des jeunes qui lui reprochent d'avoir diffusé sur les radios locales un avis défavorable à leur marche. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Soudan du Sud, le cessez-le-feu a été respecté hier à Djouba, la capitale, où après 4 jours d'affrontements sanglants entre les forces du président Salva Kiir et les ex-rebelles du vice-président Riek Machar. Ces affrontements ont contraint quelques 36 000 personnes à fuir leur foyer. Selon l'AFP, aucun coup de feu ou tir d'artillerie n'a été entendu mardi et aucun hélicoptère de combat n'est apparu dans le ciel de Djouba. L'aéroport de la ville a repris timidement ses activités.
Au Zimbabwe, un mouvement de contestation est prévu ce mercredi et demain jeudi. Cet appel à manifester a été lancé par le pasteur Evan Mawarire, l'un des leaders du mouvement citoyen qui a été arrêté et inculpé mardi. Les précisions de John Linden.
Le ministre de l'Intérieur, Ignatius Chombo, a averti « Les instigateurs de ces manifestations tomberont sous le coup de la loi ». Il a par conséquent appelé le public à cesser de participer à des manifestations qu'il qualifie d'illégales. Il a ensuite repris la rhétorique du gouvernement contre les puissances occidentales, accusées de fomenter la contestation. Il a affirmé disposer de preuves de l'implication d'ambassades hostiles dans les récentes tentatives de paralysie du pays. En l'absence de partis d'opposition cohérents, le mouvement citoyen a émergé et reste très actif dans les médias sociaux. La semaine dernière, une grève générale, rare dans ce pays, contrôlée d'une main de fer par Robert Mugabe depuis 1980, avait provoqué la fermeture de commerces, d'écoles, de tribunaux et perturbé les transports en commun. M. Mugabe a prévu de se présenter à la présidentielle en 2018. Il aura alors 94 ans.
Amnesty International dénonce aujourd'hui une multiplication des disparitions forcées sans précédent en Égypte et le recours à la torture pour éliminer la contestation pacifique. L'ONG de défense des droits de l'homme a appelé la communauté internationale à faire pression sur les autorités pour cesser ces violations.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a rendu hommage hier aux 5 policiers tombés la semaine dernière à Dallas sous les balles d'un tireur embusqué. Il a appelé les Américains à la réconciliation. Précision de Michel Joseph.
Le chef de l'exécutif américain a souligné dans son discours de Dallas que les 5 policiers morts et leurs familles avaient en commun l'engagement à accomplir quelque chose de plus grand que leur personne. Barack Obama a rejeté l'idée selon laquelle le pays est divisé.
I'm here to say we must reject such despair.
Je suis ici pour dire que nous devons rejeter un tel désespoir. Je suis ici pour insister que nous ne sommes pas aussi divisés que nous le semblons. Je le sais parce que je connais l'Amérique. Je connais le long chemin que nous avons parcouru contre d'impossibles chances.
Le président Obama, qui était accompagné de son épouse, Michelle Obama, a reconnu une certaine impuissance face à ces tragédies qui continuent de secouer l'Amérique. « Je ne suis pas naïf, j'ai parlé à trop de cérémonies, serré dans mes bras trop de familles qui ont perdu des proches. J'ai vu comment l'esprit d'unité né d'une tragédie pouvait se dissiper peu à peu. » Lors de l'émouvante cérémonie de Dallas, les 5 policiers disparus ont été représentés par 5 chaises vides sur lesquelles étaient déposés des drapeaux américains. Plusieurs personnalités y ont pris part, dont l'ancien président George W. Bush, par ailleurs ancien gouverneur du Texas.
Theresa May devient aujourd'hui la 2e première ministre de l'histoire du Royaume-Uni. L'ex-ministre de l'Intérieur de David Cameron devra immédiatement s'atteler à la très difficile mission de mettre en œuvre un Brexit qui aura eu raison de son prédécesseur.
La Chine a fermement critiqué aujourd'hui une décision d'arbitrage désavouant Pékin sur ses revendications en mer de Chine méridionale, la jugeant comme un papier bon à jeter, tout en appelant les Philippines à revenir à la table de négociation. Dans sa décision annoncée mardi, la Cour permanente d'arbitrage de la Haye a jugé que Pékin a violé les droits souverains des Philippines et que des navires chinois ont commis des actes illicites et que certaines zones revendiquées par Pékin sont comprises dans les eaux philippines.
Les États-Unis accueilleront 10 000 réfugiés syriens au cours de l'année fiscale en cours, comme l'a promis le président Barack Obama. C'est ce qu'a déclaré mardi le secrétaire d'État américain John Kerry. Il s'agira de 10 000 réfugiés considérés comme vulnérables, choisis dans des camps de réfugiés de l'ONU et dont l'identité et le profil auront été vérifiés par les services américains de sécurité et de renseignement, a indiqué M. Kerry au cours d'un dîner officiel à Washington. Washington s'est vu reprocher par des défenseurs des droits de l'homme de réagir trop lentement pour accueillir des personnes qui fuient la Syrie en guerre. Les adversaires de M. Obama soulignent pour leur part le risque que des djihadistes ne se mêlent au flux des réfugiés.
L'ambassadeur de France à Téhéran a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères qui lui a remis un message de protestation après le rassemblement d'opposants iraniens en exil le 9 juillet près de Paris. C'est ce que rapporte l'AFP qui cite une source diplomatique. La tenue de ce rassemblement par ceux qui ont les mains tachées du sang du peuple iranien est inacceptable, indique le message remis par un haut responsable du ministère à l'ambassadeur François Sénémo, selon l'agence de presse officielle IRNA.
Après une baisse régulière de l'épidémie de sida dans le monde, la tendance s'est brusquement arrêtée au cours des dernières années, en raison notamment d'une forte augmentation du nombre de cas en Russie. C'est ce que révèle un rapport publié mardi par l'ONU-SIDA. En revanche, la contamination chez les enfants a été réduite de plus de 70% depuis 2001 et continue de décliner. L'ONU s'est fixé pour objectif de mettre fin à l'épidémie en 2030. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco avec John Linden.
La Banque indienne d'import-export a accordé une facilité de crédit de 200 millions de dollars au gouvernement sénégalais pour le financement d'une ligne de transmission électrique de 225 kV entre les villes de Tambukonda, Golda et Zingishor. Cette ligne de crédit permettra également de financer l'extension et la réhabilitation du réseau électrique dans les zones autour des villes concernées. La Banque africaine d'import-export et la Banque chinoise d'export-import vont financer l'aménagement de 2000 hectares de zones industrielles en Côte d'Ivoire. Lors du 6e forum sur la coopération sino-africaine tenu en 2015 à Johannesburg, la Chine avait promis d'investir 60 milliards de dollars sur 3 ans en Afrique, dont 10 milliards comme capital initial d'un fonds destiné à soutenir les partenariats industriels. La Banque africaine de développement a annoncé la nomination de l'économiste camerounais Célestin Monga au poste de vice-président en charge de la gouvernance économique et de la gestion du savoir de cette institution financière panafricaine. Le nouveau chef économiste de la BAD a commencé sa carrière à la Banque mondiale en 1997, où il aura passé une vingtaine d'années. Célestin Monga occupait depuis fin 2014 le poste de directeur général adjoint de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.
Les sports à présent avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa.
JO 2016, Usain Bolt confirmé officiellement sur 100 mètres, 200 mètres et relais.
La star du sprint, le Jamaïcain Usain Bolt, qui avait déclaré forfait aux sélections nationales en raison d'une blessure, fait bien partie de la sélection jamaïcaine de 59 sportifs dévoilés hier pour les Jeux Olympiques de Rio. Bolt a été inscrit sur la liste provisoire des athlètes qui concourront sur 100 mètres, 200 mètres et le relais 4 fois 100 mètres. Il pourra donc tenter de devenir le premier athlète à réaliser un triplé lors de 3 Jeux Olympiques consécutifs après Pékin 2008 et Londres 2012. On rappelle pourtant que Bolt risque toutefois à l'avenir de perdre l'une de ses médailles, celle du relais 4 fois 100 mètres des Jeux de Pékin de 2008, puisque l'un des membres de l'équipe, Nesta Carter, a depuis été contrôlé positif à la suite de réanalyse.
On reparle de Karim Benzema.
Karim Benzema qui a manqué l'Euro 2016 sur la décision de la Fédération française de football à la suite de sa mise en examen dans l'affaire de chantage à la sextape. Eh bien, il n'est pas suspendu à vie, mais laissons le temps au temps, a expliqué le président de la FFF, Noël Le Graët. Il y a une affaire en cours, ce n'est pas une pièce en l'air, il faut voir l'évolution de cette affaire, a expliqué Le Graët lors d'une conférence de presse. On rappelle que l'attaquant du Real Madrid a déposé début mai une requête en nullité de la procédure qu'il juge déloyale.
Tour de France cycliste, Froome reste en jaune.
C'est l'Australien Michael Matthews de l'équipe Orica qui a remporté la 10e étape du Tour de France en battant au sprint ses compagnons d'échappée. Il s'agit de la première victoire d'étape dans la carrière de l'Australien qui a 25 ans sur la grande boucle. Quant au Britannique Chris Froome de l'équipe Sky, il conserve le maillot jaune de leader.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au lendemain du retour à l'ordre constitutionnel en République centrafricaine, le nouveau gouvernement fait du retour des personnes déplacées à leur domicile une de ses priorités. Un projet pour l'accompagnement de ces personnes est en cours de validation avec les humanitaires, nous dit de Bangui notre correspondant Freeman Sipila.
En dehors du projet en cours de validation entre le gouvernement et les humanitaires, une première vague des déplacés a déjà quitté le site du grand séminaire de Bimbo au sud de Bangui. Ces personnes, plusieurs dizaines, ont accepté volontairement de regagner leurs habitations ou de refaire leur vie dans d'autres quartiers. Pour faciliter cette opération, la Caritas et la Nonciature ont octroyé des appuis financiers, notamment le paiement de 3 mois de location à chaque ménage. Monseigneur Dieudonné Zapalainga, archevêque de Bangui.
Certains ont tout perdu, sont dans le dénuement total. Le banc se mettait un refuge, l'église n'a pas fermé ses portes. Il y a un début de paix. Voilà pourquoi des amis ont soutenu notre projet. Et maintenant, nous avons demandé, dans le dialogue, dans la concertation avec nos frères et sœurs, de trouver des lieux où nous allons financer 3 mois de location.
Côté gouvernement et humanitaire, des initiatives se multiplient pour l'accompagnement des déplacés dans leurs localités initiales. Un projet conçu à cet effet devrait être validé cette semaine. Lundi, la ministre des Affaires sociales, Virginie Baïkwa, a expliqué aux déplacés du site de l'aéroport Bangui-Poko les contours du dit projet.
C'est d'engager un dialogue avec les personnes déplacées pour mieux préparer le retour et la relocalisation. C'est ce que je viens de faire, leur présenter le déroulé, c'est-à-dire le chronogramme que nous avons mis en place pour le retour, échanger avec eux sur le projet de retour et en même temps recueillir leur avis pour pouvoir amender et étoffer le projet que nous avons préparé. Le projet a été bien accueilli par les déplacés parce qu'il y avait un problème d'information. Aujourd'hui, ils sont informés.
La plupart des déplacés ont exprimé le besoin de regagner leurs habitations respectives. Cependant, ils exigent la sécurisation complète des quartiers. Landry Evrard Bridjadé, un des déplacés de l'aéroport.
On a accepté ces propositions, mais ce qui est là, notre souci, c'est de procéder au désarmement. Si on désarme ces gens-là, nous, on n'a pas de problème. On cherche à regagner nos zones respectives. On n'a pas besoin de rester perdre nos temps sur le site parce que nous avons des enfants qui sont des futurs cadres de ce pays qui doivent aller à l'école.
En attendant le projet du gouvernement, Caritas Centrafrique procédera le samedi 16 juillet à la seconde phase des opérations de retour volontaire des déplacés du grand séminaire à leur domicile. Frimansi Pila Bangui, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bangui, sur 101.7 FM.
Au Cameroun, certains magistrats et députés sont en train d'éduquer les veuves sur leurs droits dans un pays où, pour citer notre correspondant, certaines pratiques qui n'honorent pas les femmes persiste. Par exemple, beaucoup ne peuvent pas hériter des biens de leur défunt mari. Certaines pratiques traditionnelles exigent d'elles des comportements plutôt humiliants. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, notre correspondant à Yaoundé.
Parmi celles sollicitées pour expliquer leur situation, Christabel Nzié, âgée de 36 ans, est mère de 4 enfants. Leur maison conjugale a été confisquée par le frère de son défunt mari depuis 6 ans.
Mon mari était mort de suite à un accident de circulation. Et depuis qu'il est décédé, je suis abandonnée à moi-même. Les enfants vont à l'école, je me débrouille, j'ai une petite boutique à la maison qui ne tourne vraiment pas à merveille. Il y a d'autres veuves qui sont pauvres et d'autres qui n'ont même rien. Si tu croises encore les bras, ça ne peut pas donner.
Christabel vend dans une petite boutique chez elle pour pouvoir payer les dettes de son mari, subvenir aux besoins de ses enfants et les envoyer à l'école. Elle a appelé au secours sa fille Alvin Ngoubou, âgée de 9 ans, qui vend les beignets dans les rues au retour de classe.
Je suis venue vendre pour l'argent de ma mère. Cet argent lui sert à rembourser ses dettes de réunion et me donner un peu d'argent pour commencer à cotiser pour ma liste de fournitures. Il y a d'autres tontons qui courent vite quand on appelle bâton. Ils cherchent à bousculer tout le monde pour vite vendre.
Le Cameroun compte 300 ethnies et une abondance de pratiques qui vont à l'encontre des droits de veuve. Par exemple, beaucoup n'ont pas accès à l'héritage des biens de leur mari après leur décès. Certaines pratiques exigent à la veuve de se coucher au sol pendant 2 semaines ou encore de boire l'eau du cadavre comme preuve de leur innocence. Maître Edouane Goum demande aux Camerounais d'être conscients des droits des femmes.
Les femmes doivent savoir qu'à la dissolution de leur mariage par le décès de leur conjoint, si elles étaient mariées sous le régime de la communauté, elles vont demander la liquidation de la communauté de moitié. Les héritiers de leur mari, que ce soit des enfants qu'il a eus en mariage, mais qu'il a reconnus, ou que ce soit les ascendants, ou que ce soit les collatéraux, ne vont hériter que de la moitié qui devait revenir au mari s'il avait été vivant. Les articles 20 et suivants du protocole de Maputo invitent clairement les États parties, dont le Cameroun, à tout faire pour combattre les rites. Expressement, on parle des droits de la veuve. C'est très important, c'est le premier instrument régional qui parle spécifiquement des droits de la veuve. Il s'agit des atteintes à l'intégrité physique.
Le ministre camerounais de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena-Ondua, dit que ces pratiques ne respectent pas les femmes et fait appel aussi à la conscience.
Les administrations avaient prévu beaucoup de choses, mais il n'y avait pas une diffusion de ce qui était prévu par l'État. Donc, par exemple, certaines veuves ne savaient pas que nous disposons des structures même qui pouvaient les écouter. Et nous avons une cellule juridique qui peut répondre, les aider à trouver des solutions à certains de leurs problèmes.
La Fédération internationale des femmes avocates annonce que malgré toutes les lois et conventions ratifiées par le Cameroun, il reste encore beaucoup à faire pour promouvoir les droits des femmes et surtout ceux de veuves. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Ici aux États-Unis, depuis le 1er juillet, seuls les adultes peuvent se marier en Virginie, selon une nouvelle loi qui remplace celle qui permettait à une fille de 13 ans ou moins d'être mariée avec le consentement des parents si elle était enceinte. Aujourd'hui, la loi fixe l'âge minimum à 18 ans. Près de 4500 enfants de moins de 18 ans ont été mariés en Virginie entre 2004 et 2013, selon les données du ministère de la Santé de l'État. Cela inclut plus de 200 enfants de 15 ans ou moins, dont des filles de 12 ans. Nathalie Barge a joint Nicole Chicham, directrice de la division internationale d'Advocates for Youth à Washington.
C'est surprenant parce qu'on pense qu'ici aux États-Unis, il n'y a pas un problème comme ça de mariage forcé, mais en effet, ça existe et on se rend compte maintenant avec des études qui sont sorties dernièrement que ça existe et il y a des efforts maintenant pour améliorer les lois comme en Virginie où on a cette nouvelle loi finalement qui limite l'âge de mariage à 18 ans. Donc c'est un grand progrès.
Et l'on précise que ça peut être 16 ans si l'enfant est émancipé par ordonnance du tribunal. C'est-à-dire que si la fille est enceinte ou qu'elle a le consentement des parents, tout ça, ça ne tient plus du tout.
C'est ça. Les lois avec les exceptions, c'est toujours un peu plus difficile à appliquer, mais il y a moins d'exceptions dans cette loi qu'il y avait avant.
Alors donc, en fait, la loi ne stipulait pas d'âge minimum pour le mariage, c'est ça?
Non, c'est ça. Et c'est une tendance au niveau global. Les pays à travers le monde, il y a une tendance pour améliorer les lois et pour fixer un minimum de 18 ans. Et en effet, beaucoup, beaucoup de pays, et même la plupart des États, ici aux États-Unis, ont ces lois, mais des fois, il y a ces exceptions qui font que ça ne protège pas comme on voudrait.
Il faut savoir qu'auparavant, une enfant de 12 ans pouvait être mariée si elle était enceinte avec le consentement de ses parents.
C'est ça. Et c'est souvent avec des hommes qui sont des adultes. Beaucoup plus âgés.
Donc, cette loi a été votée pour éviter les mariages forcés, pour éviter la traite des personnes et voir les viols déguisés en mariage. Et on peut très bien imaginer que si l'on part d'une violence, les violences continuent une fois que la personne est mariée avec la jeune fille.
Oui, c'est-à-dire le mariage forcé comme ça n'offre pas de protection. Donc, les violences, les viols augmentent, c'est un grand problème.
Est-ce qu'il y a d'autres États qui sont dans la même situation?
Oui, en effet, le Maryland, Californie, New Jersey, New York, ils considèrent des lois similaires. En New Jersey, par exemple, il y a quand même documentation qui montre qu'il y a eu 3481 mariages forcés entre 1995 et 2012. Et la plupart, c'était des jeunes filles mariées avec des adultes, des hommes plus âgés.
Nicole Chisholm, directrice de la division internationale d'Advocates for Youth à Washington. Rendez-vous sur voafrique.com pour l'interview dans son intégralité.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Présidentielle américaine 2016, la candidate démocrate présumée Hillary Clinton a reçu hier dans le New Hampshire l'appui très attendu de son adversaire aux primaires, le sénateur Bernie Sanders. Chez les Républicains, le candidat présumé continue sa quête d'un colistier. On parle ici de Donald Trump. Pour une analyse de ces développements, Timothée Donangmai a joint le professeur James Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville.
C'est assez important pour Mme Clinton parce que les supporters de Bernie étaient un peu malaises avec Hillary. Ils se méfient un peu de Hillary. Alors le soutien de Bernie Sanders va peut-être donner un peu d'esprit à Hillary et va rallier la gauche à sa campagne.
Alors maintenant que M. Sanders a rallié le camp de Mme Clinton, pensez-vous que ses partisans vont le suivre?
On va voir, parce que justement, c'est intéressant que Donald Trump, lui, il mentionne Bernie Sanders très souvent. Et il dit que moi, Trump, je veux avoir le soutien de ses supporters, parce qu'il y a plusieurs points où il est plus proche peut-être à Bernie Sanders qu'à Madame Clinton. En ce qui concerne le commerce extérieur, c'est vrai que Bernie Sanders et Donald Trump sont plus proches que Bernie Sanders avec Madame Clinton. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, que Trump va essayer de gagner un peu des partisans de Bernie Sanders.
Le candidat républicain présumé Donald Trump, de son côté, est à la recherche d'un vice-président, d'un colistier. De quel côté penche-t-il?
Alors, il y a plusieurs choses à dire sur cela. Il a la possibilité de nommer soit un politicien très bien connu, comme Newt Gingrich, un conservateur, un type intéressant, mais peut-être pas très populaire avec les Américains en général. Puis il peut trouver quelqu'un qui est très conservateur, le gouverneur de l'État d'Indiana, Michael Pence, ou il peut faire quelque chose de différent en choisissant en général le général Flynn, qui est d'origine démocrate et qui va peut-être aider Trump en ce qui concerne la politique extérieure.
Eh bien, c'était le professeur James Caesar de l'Université de Virginie à Charlottesville.
Dans Washington Forum cette semaine, vague de tensions aux États-Unis avec la mort de deux hommes noirs abattus par des policiers. Dallas, le 7 juillet, un tireur embusqué tue cinq policiers en marge d'une manifestation contre les violences policières, justement. Barack Obama se rend sur place. Alors la question raciale est-elle de nouveau relancée aux États-Unis? Quelle unité pour le pays? Il y aura-t-il un autre débat sur le port d'armes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique.
vos commentaires sur notre page Facebook Roger Moutou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-8540. Je répète, 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.